Alors, nous allons aborder aujourd'hui l'étude de Giovanni Pietro Bellori, dont j'ai déjà prononcé à plusieurs reprises le nom, qui est l'auteur d'un ouvrage qui reprend le titre, pratiquement le titre de celui de Vasari, « Les vies des peintres, sculpteurs et architectes modernes ». Et ce livre date de 1672. Nous allons voir tout de suite, en même temps, qu'il se distingue radicalement de celui de Vasari, déjà par le fait qu'il propose une sélection qualitative des artistes. Les artistes qu'il choisit doivent servir de modèle, d'exemple pour les artistes contemporains et pour le public cultivé. Il n'y a donc pas à proprement parler de discours critique comme chez Vasari, dans la mesure où les artistes que choisit Bellori sont des artistes qu'il estime. Donc il n'a pas à distribuer des bons et des mauvais points comme le faisait Vasari. Ce qu'il analyse, c'est l'activité artistique, en réalité. Vous allez voir que, à la fois ce qu'il dit des artistes, ce qui est relatif à leur biographie, comme ce qu'il dit des œuvres, convergent toujours vers la même chose, à savoir la présentation de cette activité, l'étude de cette activité. Ce pourquoi j'accorde une grande place à Bellori dans ce cours de cette année, c'est parce que il est le premier de tous les biographes d'artistes que nous avons examinés jusqu'ici, aussi bien évidemment par rapport à Vasari, mais aussi par rapport à Karel van Mander, par rapport à Sandrart, il est le premier qui accorde une telle importance aux descriptions des œuvres d'art. Et ce sont donc les œuvres majeures des artistes qu'il a choisis auxquelles il consacre une attention, je dirais, qui a un caractère essentiellement littéraire. Alors, Bellori lui-même vient des milieux culturels du secrétariat du cardinal Francesco Angeloni et fréquente des antiquaires comme Leonardo Agostini. Il a une connaissance du monde de l'art qui est extrêmement vaste. Non seulement il connaît des artistes, mais il connaît aussi les antiquaires, les collectionneurs, Dal Pozzo, étant le plus célèbre, le chevalier Dal Pozzo était un des plus célèbres collectionneurs de son temps. Alors, cette vie, cette série de vies qu'il écrit, dans une première version, se limite à 12 biographies. 12 biographies d'artistes actifs à Rome, Hannibal et Augustin Carrache, Domenico Fontana, Frédéric Baroche, Le Caravage, Rubens, Van Dyck, François Duquesnoy, Le Dominicain, Lanfranco et Algardi. Et puis, un artiste français qui est au fond le point de convergence du contenu de ce livre, c'est Poussin. Donc tous ces artistes, en fait, ont déployé leur œuvre et leur talent sur la scène romaine. Rome joue donc un rôle déterminant, à la fois dans l'influence que cette ville exerce sur eux, la ville antique, bien sûr, mais aussi la ville moderne, et qu'un artiste comme Fontana a précisément contribué à restaurer la grandeur antique de Rome. Et même la place culturelle des Flandres, lorsqu'il l'évoque, il la situe par rapport au modèle romain. Alors, nous avons parlé de Rome abondamment à propos déjà de Giulio Mancini, en disant à quel point les différentes entreprises d'inventorisation, de copies, de collection même des œuvres anciennes de l'époque paléochrétienne, commençaient à faire de Rome une ville qui n'était plus seulement tournée vers l'Antiquité, même si l'époque paléochrétienne par Mancini était considérée comme une sorte de prolongement, évidemment, de la grandeur antique. Et là, nous voyons comment cette ville acquiert une importance d'autant plus grande que ses artistes sont grands. Donc la grandeur même de la cité est tributaire de la grandeur des artistes. C'est évidemment le même schéma que celui de Vasari, mais simplement que lui considérait que c'était Florence et non pas Rome. Alors, dans la littérature artistique, la première publication de Bellori est une description de la galerie Farnèse décorée par Annibal Carrache. Et ce texte date de 1657. Il décrit avec soin cet ensemble, nous en donne une explication absolument argumentée par l'étude même des thèmes, de même qu'il donne une description des chambres du Vatican décorées par les fresques de Raphaël. Malheureusement, ça, c'est un ouvrage qui est prêt avant 1670, mais qui sera publié seulement entre 1695 et 96. C'est intéressant de noter ces deux ensembles, Raphaël au Vatican et le Carrache et son atelier, bien entendu, au Palais Farnèse, parce que ce sont des grands cycles de peinture et que Bellori s'intéresse particulièrement à ces questions de cycles parce que, à travers ces cycles de fresques, on est aussi en mesure d'approcher une tradition picturale, un héritage historique d'une certaine façon. Et puis, dans ces cycles, il met en évidence que l'essence de la peinture est dans l'imitation des actions et des sentiments humains. La peinture doit restituer l'activité humaine, les affects, par conséquent, les passions. Et il paraît donc évident que Bellori s'attache à décrire avec beaucoup d'acuité les figures des protagonistes, puisque c'est en lisant les gestes, les expressions physionomiques qu'il parvient à nous donner un récit cohérent et à ranger toute cette représentation dans le droit fil d'une imitation juste. Alors, donc, ces procédés descriptifs, il les a donc explorés dans des études comme celle que je viens d'indiquer, dans cette description des grands cycles de fresques, et il va les utiliser dans ses vies, dans les vitées dont j'ai parlé tout à l'heure. L'expérience visuelle, telle qu'elle importe dans l'écriture de Bellori, est quelque chose de tout à fait nouveau dans l'histoire de l'art, même si nous avons des cas, je vais encore avoir l'occasion de les évoquer, antérieurs, de telles descriptions, de tels efforts descriptifs, précisément à Rome d'ailleurs, au XVIIe siècle. Il n'empêche que c'est Bellori qui est vraiment le plus important des écrivains sur l'art et qui est celui qui réussit le mieux et qui a sans doute réussi à parfaire ce modèle descriptif. À la tête de son livre sur les vies de 1672, il place des réflexions sur l'idée, le modèle de pensée qu'est l'idée. De quoi s'agit-il ? Je donne sa propre définition, qui n'est pas immédiatement caractérisée par sa simplicité. L'idée du peintre et du sculpteur est cet exemple parfait et excellent de l'esprit auquel se conforment les choses qui sont vues dans l'imitation de sa forme imaginée. Donc il y a une idée, une conception de quelque chose qui vient de l'esprit du peintre et qui doit ensuite se transformer en imagination, j'allais dire en imagination imaginante, en imagination créatrice, donc transposée ainsi sur la toile à partir de cette vue de l'esprit. Cette place du concept de l'idée et donc implicitement aussi du dessin est quelque chose de tout à fait important dans la théorie de Bellori. D'ailleurs, Panofsky, dans son ouvrage qui s'appelle précisément « Idea », lui accorde une très grande place. Les nobles peintres et sculpteurs, imitant le premier ouvrier, Dieu, en d'autres termes, forment eux aussi dans leur esprit un modèle de beauté supérieure. Et sans le quitter des yeux, amendent la nature en en corrigeant les couleurs et les lignes. Cette idée, tirant son origine de la nature, elle dépasse son origine et devient elle-même origine de l'art. Mesurée par le compas de l'entendement, elle devient mesure de la main œuvrante et, animée par l'imagination, elle donne vie aux images. Voilà les trois étapes, si vous voulez, de cette déconstruction conceptuelle. Il y a d'abord l'idée elle-même qui ne peut avoir son origine que dans la nature, mais qui devient à son tour origine de l'art. Le compas de l'entendement, donc il y a une façon de mettre en pratique tout l'apprentissage de chaque artiste pour mettre cette image au service de cette main œuvrante, une très belle image, je trouve, du compas de l'entendement. Et enfin, elle est animée par l'imagination, c'est-à-dire ce qui va finalement donner vie à ces scènes, à ces protagonistes animés, ces figures animées, gesticulant dans l'image. L'idée du peintre et du sculpteur est ce modèle parfait et excellent dans l'esprit auquel ressemblent les choses qui sont devant nos yeux parce qu'elles en imitent la forme imaginée. Suivant l'exemple des anciens, les meilleurs de nos modernes, tels Leon Battista Alberti, nous apprennent qu'il faut aimer dans toutes les choses non seulement la ressemblance, mais surtout la beauté, et que celle-ci doit être tirée des plus belles parties des corps les plus beaux. On revient ici à cette vieille idée de la beauté idéale, qui, chez les anciens déjà, est considérée comme ne pouvant finalement être obtenu qu'à l'aide des plus belles parties de plusieurs corps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un corps idéal dont le peintre pourrait se servir pour exécuter, pour représenter, pour montrer la beauté. Il y a chez lui tout un travail de choix à faire pour arriver à cette beauté idéale, beau idéal. Alors, il faut rappeler cependant que Bellori, en particulier dans la vie du Dominicain, sur laquelle je reviendrai aussi, utilise une partie d'un traité dû à Agucci, qui était plus ancien de presque une soixantaine d'années, un traité qui n'a jamais été publié. Et Agucci se basait en fait sur une chronologie, une division, si vous voulez, de l'art en plusieurs styles, comme Pline l'avait fait dans l'Antiquité, en parlant de style attique, style asiatique, style sicyonien et romain. Bellori reprend donc à travers Agucci cette idée en procédant à la division suivante. Il y a l'école romaine, conduite par Raphaël et Michel-Ange, qui a su imiter la beauté des statues. Donc c'est la matrice même de cette Rome antique qui a permis à ces artistes d'imiter la beauté des statues. Ensuite, les peintres de Venise et des Marches, conduits par Titien, imitaient la beauté de la nature telle qu'ils la voyaient. Corrège, à la tête de l'école lombarde, imitait la nature avec davantage de perfection. Donc, il y a là une progression qui est indiqué vers une perfection plus grande. Et enfin, les Toscans inventèrent un style différent, les plus excellents étant Léonard et Andrea del Sarto. Vous voyez donc comment à une sorte de géographie artistique correspondent des personnalités, des figures centrales qui donnent en quelque sorte le ton de chaque spécialité propre aux écoles. Ce sont les écoles qu'il définit. Je voudrais aussi préciser que le modèle d'une description d'un tableau pour Bellori se trouve sans doute chez Iaguchi. En 1602, il est le premier à avoir donné une description isolée d'un tableau, cette fameuse Vénus endormie avec des amours d'Annibal Garache, qui est aujourd'hui au musée Condé et qui à l'époque se trouvait au palais Farnèse. Et le manuscrit de ce texte était lui-même dédié à Cassiano, del Pozzo, dal Pozzo, donc au fameux chevalier dal Pozzo. Et ce texte a circulé à Rome, sans doute aussi à Bologne, et il sera publié par Malvasia en 1678. Il existe un autre texte de ce genre, une grande description, de la coupole de San Andrea della Valle à Rome, peinte par Lanfranco. Et cette description est due à un auteur qui s'appelle Ferrante Carlo. Carlo est son nom de famille. C'est un texte qui remonte à peu près à 1627, qui n'a jamais été publié non plus. Donc vous voyez, il y avait une tendance en fait à ce que des écrivains, parce qu'on peut considérer que ces hommes étaient aussi des écrivains, s'emparent du genre de l'ekphrasis ou de la description du tableau pour tenter de faire des descriptions qui sont considérées aujourd'hui comme les premières grandes descriptions de tableaux. Ou de tableaux, de cycles, qu'importe. Et ces descriptions, par exemple, c'est le cas chez Ferrante Carlo, il va même jusqu'à donner une définition du style de Lanfranco. Donc là, c'est pas seulement une description de tout ce qui s'y passe, et ce sont des scènes relativement compliquées, c'est en plus une coupole très haute, très peu visible, aucun regard ne peut vraiment embrasser l'ensemble du cycle, donc la description était d'autant plus utile, je dirais, et d'autant plus difficile à faire. Alors, l'artiste qui a su opérer la synthèse de toutes ces écoles est aussi la synthèse entre l'ancien et un idéal moderne, c'est Annibal Garache, aux yeux de Bellori. Mais, je vous l'ai dit tout à l'heure, le Poussin occupe une place vraiment très importante. Alors, c'est à la fois un des peintres les plus importants pour Dal Pozzo, c'est un peintre essentiel pour Bellori, il y a tout un milieu romain qui considère l'importance de Poussin, en particulier par rapport à ses modèles antiques, mais aussi par rapport à ce que Poussin, selon Bellori, est le premier à introduire, une grande concentration sur des images, sur des tableaux relativement petits. Donc la densité même des tableaux de Poussin, qui en effet ne peignait pas de très grands tableaux, mais la densité de ces tableaux était considérée comme une réussite extrêmement grande et importante, un élément novateur dans le développement de la peinture. Alors, donc il étudie à la fois les actions et les affects, comme je vous l'ai dit, et Bellori nous mène progressivement le lecteur de cette description, d'un protagoniste de la scène à un autre. Toujours les personnages principaux, puis les personnages secondaires. Mais il y a aussi, vous le verrez, des passages où il commente la lumière, il commente le coloris. Et c'est au fond, je dirais, la fusion de tous ces éléments, de tous ces caractères dans leur traduction linguistique, langagière, qui fait la grande originalité de Bellori. Alors, il faut peut-être que je fasse un bref résumé de ce que j'ai pu dire la dernière fois, mais non pas pendant l'heure qui est diffusé sur Internet, mais plutôt dans la deuxième heure où nous regardons en général beaucoup d'images, mais où j'ai fait un sort particulier à la question de la description. Je crois qu'il faut que je revienne là-dessus parce que c'est un élément tout à fait essentiel pour la compréhension de la suite. La description d'un tableau suppose l'introduction d'une temporalité qui est celle d'un récit, d'une, nous dirions aujourd'hui, d'une iconographie particulière, récit que veut raconter le peintre et qu'il s'efforce de mettre en image. La distribution même des figures à l'intérieur d'un tableau fait que le descripteur ne peut pas tout simplement nous dire en même temps, simultanément, comme nous le voyons dans le tableau, comment ces scènes sont déployées. Il faut qu'il introduise un ordre temporel en partant d'une partie, en allant vers une autre et en terminant encore par une autre. Donc tout ce cheminement à l'intérieur du tableau est un cheminement arbitrairement instauré par le descripteur, forcément. Aucun peintre, ou en tout cas, ils sont très exceptionnels, n'a donné un mode d'emploi de lecture de son tableau. Donc c'est vraiment le descripteur qui va nous prendre par la main, nous introduire dans le tableau pour aller d'une scène ou d'une sous-scène à une autre. Donc ça, c'est un premier élément très important qui va évidemment conditionner l'ordre du discours, mais qui va aussi conditionner notre appréciation de l'œuvre. Selon l'importance que le descripteur accorde à tel ou tel passage d'un tableau, telle ou telle partie, pardon, d'un tableau, le lecteur va être enclin à considérer que cette partie est la plus importante. Et inversement, il peut négliger certaines parties du tableau et le spectateur que nous sommes va aussi les négliger. Là, évidemment, je vous parle comme si le lecteur de Bellori avait sous les yeux le tableau ou le cycle de fresques qu'il décrit, ce qui n'est évidemment pas, en général, le cas. Les descriptions de Bellori n'étaient pas vendues à l'entrée du Palais Farnèse ni à l'entrée des stanze du Vatican pour accompagner le visiteur. Ça aurait été évidemment parfait, mais ce n'était pas le cas. Donc, en fait, ces textes de description sont bel et bien faits pour être lus comme des morceaux de littérature. Ils doivent être suffisamment précis, suffisamment suggestifs pour que le lecteur ait l'impression d'avoir le tableau devant les yeux. Il est bien évident que le tableau imaginaire que le lecteur a devant les yeux, s'il n'a pas vu le tableau original, n'a rien à voir avec le tableau original, vous vous en doutez. Mais cela n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui importe, c'est toute la manière dont Bellori mobilise tout un vocabulaire, un ensemble de métaphores, un ensemble de comparaisons, parfois même d'analyses extrêmement concrètes, pour nous faire entrer littéralement dans l'épaisseur du tableau. Ce que je voudrais encore souligner, c'est la place qu'il donne à Annibal Carrache. Je l'ai souligné tout à l'heure, je vous ai dit que pour lui, c'était le premier à avoir su réaliser cette synthèse entre l'ancien et le moderne. En même temps, puisque je l'ai fait déjà à propos d'autres récits miraculeux quasiment, il considère aussi que la mission de Annibal Carrache était quasiment une mission divine et qu'il a des dons divins. Il donne un récit où il raconte que lors d'un voyage, le père de Annibal a été molesté par un brigand et que le jeune homme a dessiné de mémoire un tel portrait du malfaiteur qu'on a vite fait de le retrouver. C'est l'inventeur du portrait robot. Le récit est évidemment tout à fait éloquent. Ça veut dire qu'il avait déjà un tel sens de la réalité qu'il parvenait à saisir les traits d'un visage. L'efficacité, dit Bellori, l'efficacité de ses capacités d'étude et d'analyse apparut fort tôt. Elle le portait vers les formes de la nature et il les traduisait avec vivacité par le dessin. Grâce à ce don tant loué d'exprimer en quelques traits l'esprit et l'âme par les formes. Il fit montre dès sa prime jeunesse de ses talents d'observation. Voilà, et puis arrive cette histoire étonnante. Et ensuite, nous passons à l'éloge de Poussin. Alors, je l'ai dit, les formats réduits du Poussin l'ont beaucoup, ont beaucoup retenu son attention, parce que le format réduit provoque une concentration des effets, produit aussi un grand plaisir de l'esprit et des yeux, et surtout, ce qui nous frappe aujourd'hui, évidemment, c'est l'importance nouvelle de la France et le rôle de Rome dans l'évolution d'un artiste. Alors, nous allons exceptionnellement regarder un tableau, et je reviens après à la description qui précédait, que j'inclus dans ce cours. C'est le fameux paysage d'Orage avec Pyramétis B, appelé aussi parfois paysage avec Pyramétis B, qui se trouve à Francfort. C'est un tableau qui a été peint pour Cassiano, del Pozzo en 1651. Alors, je vais peut-être vous laisser l'image sous les yeux et vous en lire la description qui précédait. Thisbé court, les bras tendus, vers le cadavre de son bien-aimé Pyram et se précipite en forcené dans la mort, pendant que de la terre, du ciel et de toute chose s'exhale une funeste horreur. Il s'élève un tourbillon, et les arbres sont secoués et pliés par le vent. On entend parmi les nuages le fracas du tonnerre et la foudre frappe la plus grosse branche d'un tronc. Un terrible éclair, à travers cette obscure nuée, illumine un château et quelques maisons s'enflamment sur une colline. Non loin, le vent apporte une pluie impétueuse. Pasteurs et troupeaux cherchent leur salut dans la fuite, tandis qu'un homme à cheval pousse, tant qu'il peut, les bœufs vers le château pour les mettre à l'abri de la tempête. Sorti de la forêt, un lion terrifiant déchire un cheval tombé à terre avec son cavalier, et le compagnon de ce dernier frappe le fauve avec sa pique. C'est ce lion qui a provoqué la mort des amants malheureux. Bon, moi je ne vois pas trop bien sur mon écran, mais vous voyez toute cette scène... Voilà. Donc, ainsi qu'elle est décrite par Bellori, vous voyez ici le bouvier avec ses bœufs, vous voyez ici le cheval qui va être attaqué par le lion, ici Pyramétis B, évidemment, au premier plan. Et ce qu'il a dit de la description du paysage, l'orage, les arbres inclinés, l'éclair, tout cela est donné avec une grande concision, finalement. Nous avons eu en un texte relativement court, voilà, la longueur du texte n'est pas très longue, et avec ce texte, on peut dire que tout est dit du tableau. L'essentiel, y compris l'atmosphère particulière du tableau. Parce qu'il y a là quelque chose qui est évidemment difficile de décrire, qui échappe à la description elle-même, c'est que du premier coup d'œil, ce tableau a quelque chose de sinistre, de terriblement impressionnant pour un spectateur. Et les seules figures humaines qu'on y voit sont des figures ployées, inclinées, penchées ou même tombant. Alors, il y a une lettre de Poussin, très intéressante, à propos précisément de ce tableau, une lettre qu'il a écrite à Jacques Stella, donc un autre peintre, en 1651, et où il parle de ce tableau. Je vous donne le texte de Poussin. « J'ai essayé de représenter une tempête sur Terre. J'ai oublié de vous préciser que Pline raconte que le peintre Appel comptait parmi ses hauts faits d'avoir su peindre ce qui ne pouvait être peint, c'est-à-dire l'éclair et le tonnerre. » Donc il y avait déjà dans la tradition antique l'idée que le tonnerre, l'éclair, l'orage, etc., c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas peindre, qu'on ne pouvait pas représenter. Et donc, dans la lettre de Poussin, il dit ceci, « J'ai essayé de représenter une tempête sur Terre, imitant le mieux que j'ai pu l'effet d'un vent impétueux, d'un air rempli d'obscurité, de pluie, d'éclairs et de foudre qui tombe en plusieurs endroits, non sans y faire du désordre. Toutes les figures qu'on y voit jouent leur personnage selon le temps qu'il fait. Les unes fuient au travers de la poussière et suivent le vent qui les emporte. D'autres, au contraire, vont contre le vent et marchent avec peine, mettant leurs mains devant les yeux. D'un côté, un berger court et abandonne son troupeau, voyant un lion qui, après avoir mis par terre certains bouviers, en attaque d'autres, dont les uns se défendent et les autres piquent leurs bœufs et tâchent de se sauver. Dans ce désordre, la poussière s'élève par gros tourbillons. Un chien, assez éloigné, aboie et se hérisse le poil, sans oser approcher. Sur le devant du tableau, l'on voit Pyram, mort, étendu par terre, et auprès de lui, Thisbé qui s'abandonne à la douleur. Alors nous avons là deux récits qui concordent évidemment parfaitement, l'un par l'auteur même du tableau, et l'autre par ce commentateur sensible à l'œuvre de Poussin. Mais il faut savoir que lors de la grande exposition Poussin qui s'est tenue en 1987, on a radiographié ce tableau. Et on a constaté que les deux personnages qui donnent le titre au tableau, c'est-à-dire Pyram et Thisbé, ont été ajoutés au tableau lorsqu'il était fini. Donc il y avait d'abord un tableau d'orage, avec toutes sortes d'accidents sur la scène même du paysage, qui sont ceux qui subsistent aujourd'hui, et que c'est à partir de ce décor, si l'on peut dire, de cette scène, de cet ensemble, cette scénographie, que Poussin a donné ensuite un thème facilement identifiable au tableau Pyram et Thisbé. Le récit de Bellori cherche à partir des personnages de la fable, il invente un rôle pour le lion et, au fond, interprète cette nature déchaînée comme, en même temps, les signes de l'infortune des deux amants. C'est un peu ça l'idée qui se dégage de Bellori. Mais il est tout à fait intéressant de voir comment un tableau qui change de structure, qui change de composition, peut tout à coup mettre au premier plan des éléments qui ont été des éléments surajoutés, en tout cas dans la lecture qu'en fait Bellori. Alors ça, c'était le texte de Poussin. Je rappelle que ces textes sont téléchargeables à partir de mon cours tel qu'il est diffusé. Et puis, une autre vie extrêmement intéressante, c'est celle de Caravage, que Bellori nomme Michele. Je ne serais pas surpris de voir le nom Michele, qui est celui de Caravage. Et voilà un texte qui, vous allez le voir, progresse d'une façon très intéressante, moins dans la description, le commentaire d'une image, nous en aurons aussi, mais plutôt dans la façon dont Bellori affirme quelque chose et peu à peu va nuancer son jugement en montrant un certain nombre de réserves et de jugements relatifs. Lorsqu'il put commencer à peindre selon son génie propre, Michele, qui n'avait guère de goût pour les admirables marbres des antiques et les peintures si célèbres de Raphaël, il les méprisait même, se proposa la nature seule pour objet de son pinceau. Ainsi, un jour qu'on lui montrait les statues les plus fameuses de Phidias et de Glycon, afin qu'il tournât vers elle son étude, pour toute réponse, il étendit la main vers la foule des hommes. Il signifiait par ce geste que la nature l'avait suffisamment pourvu de maître. Et pour donner plus d'autorité à ses propos, il appela une gitane qui passait par hasard dans la rue, la fit monter dans son auberge et la peignit, prédisant l'avenir, comme font les femmes de race égyptienne. Il mit près d'elle un jeune homme qui pose sa main gantée sur son épée et tend l'autre à la bohémienne, laquelle la tient et la regarde. Et dans ces deux demi-figures, Michele traduisit le vrai avec tant de pureté qu'il en confirma ses dires. Ses dires, c'est-à-dire quand il a montré les hommes en disant « voilà mes modèles, voilà à partir de quoi je peins ». On lit un fait presque identique à propos de Pompos, peintre de Sicyone, peintre de l'Antiquité donc, mais il n'y a point lieu ici de considérer la valeur d'un tel enseignement. Parce qu'il aspirait à la seule gloire de la couleur, à la vérité de la carnation, de la peau, du sang et des surfaces naturelles, il, donc toujours Caravage, il lui consacrait tout entier son œil et son talent et laissait de côté les autres pensées de l'art. Ainsi, pour trouver et disposer des figures, lorsqu'il en rencontrait par les rues qui lui plaisaient, il s'arrêtait à cette invention de la nature sans exercer davantage son propre génie. Là, nous commençons à entrer dans une série de réserves du discours de Bellori. Sans exercer davantage son propre génie. Comme si, en peignant comme il le fait, cette sorte d'empreinte directe sur la nature, sur l'expérience du regard, il ne mobilisait pas tout son talent, la totalité de son talent, de son génie. Il peignit une jeune fille assise sur une chaise, les mains sur son sein, occupée à s'essuyer les cheveux. Il la peignit dans une chambre et, ajoutant sur le sol un flacon d'onguent, des colliers de perles et de pierres précieuses, il en fit une madeleine. Là aussi, j'attire votre attention sur le fait qu'il parle d'abord de cette jeune fille, d'un modèle, d'une certaine manière, on voit bien comment il peut peindre d'après nature, et c'est dans un deuxième temps que la jeune fille devient madeleine. Ce qui n'est certainement pas la démarche adoptée par Caravage, mais c'est ainsi que Bellori lit le tableau. C'est d'abord une jeune fille, très belle, se coiffant, et ensuite cela devient un sujet religieux. Elle tourne légèrement la tête de côté et presse sa main contre sa joue. Son cou et sa poitrine ont une teinte pure, simple et vraie, en harmonie avec la simplicité de toute sa personne. De la chemise qui couvre ses bras et de la robe jaune relevée jusqu'aux genoux sur son jupon de damas fleuri. Nous avons décrit cette figure en détail pour indiquer la manière naturelle du Caravage et sa façon d'atteindre, en peu de teintes, à la vérité des couleurs. Mais le Caravage, car tous lui donnaient désormais... Car tous lui donnaient désormais le nom de sa patrie, devenait chaque jour plus fameux pour les couleurs qu'il commençait d'introduire, non plus, comme avant, douce et peu soutenue, mais relevé de forces obscures, car il utilisait abondamment le noir pour donner du relief au corps. Il ne fait pas de doute que Caravage fut fort précieux pour la peinture, car il vint en un temps où, le naturel n'étant guère prisé, l'on peignait les figures selon les formules convenues et la manière, et l'on sacrifiait plus à l'élégance des lignes qu'à la vérité. Donc il met en place la position historique du Caravage par rapport à un art qui était anti-naturel. Au fond, d'une certaine manière, il juge ici tout le courant maniériste par opposition au naturalisme du Caravage. Or, lui, dépouillant la couleur de tout artifice et de toute vanité, rendit aux teintes leur vigueur et leur fit retrouver le sang et l'incarnat, ramenant ainsi les peintres à l'imitation de la nature. Il se voulait si soumis au modèle qu'il ne donna jamais un coup de pinceau qui ne fût, disait-il, non son œuvre, mais celle de la nature. Il se voulait si soumis au modèle, et méprisant tout autre précepte, il considérait comme la maîtrise suprême de ne point obéir aux règles de l'art. Cette nouveauté du Caravage fut si applaudie que le peintre contraignit à le suivre certains des esprits les plus élevés, nourris dans les meilleures écoles. Ainsi, Guido Reni se plia quelque temps à sa manière et se montra naturaliste, comme en témoigne sa crucifixion de Saint-Pierre aux Trois-Fontaines. Fort de sa gloire, le Caravage n'appréciait que lui-même et se proclamait le seul fidèle imitateur de la nature. Cependant, bien des aspects de l'art, et les meilleurs, lui faisaient défaut. Car il n'y avait chez lui ni invention, ni noblesse, ni dessin, ni la moindre science de la peinture, et si l'on notait de sa vue son modèle, sa main et son esprit demeuraient démunis. Bien sûr, ici, Bellori implicitement souligne combien l'absence de l'idéa, l'absence de l'idée, ne peut que conduire à une peinture comme celle-là. C'est-à-dire tout ce qui lui manque, ce qui lui fait défaut, l'invention, la noblesse, donc là, le respect aussi de certaines conventions, le dessin, tout cela n'existe pas en dehors de la vue d'un modèle. Et tout cela fait la définition, notamment, de l'idée. Malgré cela, beaucoup, séduits par sa manière, l'adoptaient volontiers, car sans étudier ni se donner trop de peine, ils trouvaient plus facile de reproduire la nature et copiaient des corps vulgaires et sans beauté. Le Caravage, ayant ainsi déprécié la majesté de l'art, chacun en fit à sa guise. Il ouvre, ce peintre, je dirais, les vannes à toutes sortes d'excès, d'exagérations, et entraîne à sa suite des peintres séduits par la vulgarité. Et rejetant l'autorité de l'Antique et de Raphaël, on revient à ce qu'il disait au début, l'on se mit à mépriser les belles choses. En outre, jugeant plus commode d'user de modèles et de peindre des figures d'après nature, ces peintres délaissèrent les compositions d'histoire qui sont le propre de leur art, et se consacrèrent aux demi-figures, jusque-là fort peu en usage. Alors commença l'imitation des choses viles, la recherche de la saleté et des difformités que certains poursuivent avidement. S'il leur faut peindre une armure, ils choisissent la plus rouillée. Un vase, ils ne veulent pas intact, mais ébréché ou fêlé. Leurs vêtements sont des chausses, des braies et des grossiers bonnets. Et lorsqu'ils représentent des corps, ils concentrent leur attention sur les rides ou sur les défauts de la peau et des formes et font des doigts noueux des membres altérés par la maladie. Le Caravage exerça sur la peinture une influence tout à la fois bénéfique et fâcheuse, car il bouleversa les ornements et les bons usages de cet art, jusqu'au moment où Hannibal Carrache vint éclairer les esprits et réconcilier la beauté avec l'imitation. Je n'étais pas arrivé jusque-là. Voilà, la dernière partie du texte. Le texte était très long. Il fallait donc le diviser en plusieurs diapositives. J'aurai l'occasion, à un autre moment, de lire une autre description, peut-être une des plus belles qu'ait laissée Bellori, enfin une description, ce que je viens de dire n'était pas évidemment de l'ordre de la description, la fameuse chasse de Diane de Dominicain. Mais ce que je voudrais dire peut-être encore en conclusion à propos de cet écrivain, de Bellori, c'est combien nous voyons là à la fois le souci d'une lecture précise des tableaux, des images, avec ce que j'ai appelé tout à l'heure la mobilisation d'un vocabulaire, la création même d'un vocabulaire propre à enchanter le lecteur, et en même temps le récit critique qu'il fait de chaque biographie, montrant d'une façon au fond très relativiste, à la fois ce que nous devons à Caravage, indiscutablement. Tout le début, d'ailleurs, de son récit est extrêmement positif. On a l'impression qu'il va faire l'éloge, le Caravage, et puis peu à peu, le propos se nuance de plus en plus, et on voit très bien que Bellori juge qu'il s'éloigne trop de l'idéal et que par conséquent, il nous fait entrer dans un univers où règne la vulgarité, la difformité, la laideur, toutes sortes de choses qu'on ne saurait admettre. Et ce reproche qui est fait très brièvement, qui est un reproche absolument essentiel, il ne se livre pas à la grande peinture d'histoire. La grande peinture d'histoire reste le modèle absolu des peintres. La grande peinture d'histoire ne veut pas dire des récits historiques, ça veut dire la peinture inspirée de la mythologie ou de la Bible. J'espère qu'à travers ces textes, vous avez bien saisi toute l'importance de Bellori qui va, encore une fois, exercer une très grande influence sur tous les auteurs du fin du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle. Et puis, j'en viens à un dernier auteur que je voudrais traiter un peu vite, je m'en excuse par avance, mais qui a une position, qui occupe une position au fond tout à fait intéressante, à la fois par rapport à Bellori et par rapport à toute l'historiographie de l'art que nous avons examinée jusqu'ici. Au fond, il s'agit du premier auteur qui est véritablement français, qui s'appelle André Félibien. Vous connaissez tous le nom de Félibien, vous ne connaissez peut-être pas forcément André, il y a toute une famille de Félibien qui a donné des lettres de gloire à l'historiographie de l'art et de l'architecture. André Félibien est né en 1619, mort en 1695, et il a laissé une fort abondante production littéraire. Et nous devons la réévaluation de André Félibien à mon collègue Jacques Tuillier, dont peut-être un certain nombre d'entre vous ont suivi l'enseignement ici même au Collège de France il y a quelques années. Alors, André Félibien était le fils d'un notable de Chartres, très tôt attiré par les lettres, qui s'est formé au contact d'un petit cercle de lettrés réformés, bien que lui-même était catholique. Il fait en 1647 jusqu'en 1649 un voyage en Italie en tant que secrétaire d'ambassade auprès du pape. Et à Rome, il a l'occasion d'admirer l'œuvre de Poussin. En 1666, André Félibien devient historiographe du roi et il publie la même année la première partie des entretiens sur les vies et les ouvrages des plus excellents peintres anciens et modernes. Entretiens, nous appellerons cela tout brièvement entretiens, entretiens sur les vies et les ouvrages des plus excellents peintres anciens et modernes. C'est encore un titre qui est emprunté à la tradition Vasari-Bellori, mais tout de même avec cette notion qui apparaît dès le titre des plus excellents peintres, anciens et modernes. Donc, il s'intéresse aux deux comme Bellori. Et la forme de l'entretien est une forme tout à fait courante dans le domaine littéraire à cette époque et qui rend les choses plus vivantes parce qu'il y a des interlocuteurs qui peuvent défendre certaines positions et se faire un petit peu, comme on dit, l'avocat du diable. En 1668, il est conseiller honoraire de l'Académie de peinture et de sculpture. Et en 1673, il est nommé garde des antiques du roi. Il a à ce moment-là un rôle d'expert pour les acquisitions que fait le roi dans le domaine de l'art. Alors, on peut redire avec Jacques Tuillier que il représente l'expression la plus complète de la pensée artistique du XVIIe siècle, avec ce même souci de mettre au point un vocabulaire et de développer un style pour écrire sur l'art que sans doute personne avant lui ou même après lui n'a su dépasser. Le projet de ces entretiens de Félibien prend très rapidement une envergure internationale. Je voudrais citer juste un point important qui montre tout l'intérêt qu'a développé Félibien pour l'art d'une manière générale. Il parle de ce célèbre album de Villard de Honnecourt, de cet architecte, sans doute pas un architecte, mais un clerc du XIIIe siècle, dont l'album est conservé à la Bibliothèque nationale de France, donc d'une œuvre médiévale. Il évoque cet album qu'il connaît et il souligne même les qualités du dessin de Villard-Dohengour en disant que c'est aussi bon que Cimabue. Vous voyez cette idée, évidemment, aussi de réévaluer l'art français. Nous sommes dans une époque où les nationalismes jouent un rôle très important, donc réévaluation de l'art français, mais aussi d'aller découvrir des choses aussi peu connues, surtout au XVIIe siècle, que l'était l'album de Villard-Dohengour, qui a vraiment été, pour la première fois, publié par l'architecte Lassus au XIXe siècle seulement. On peut dire qu'avec André Philibien, l'histoire de l'art prend naissance en France. Alors, ces entretiens sont publiés en plusieurs morceaux, si je puis dire. Le premier et le deuxième est publié en 1666, ensuite 72, troisième et quatrième, 79, cinquième et sixième, etc., jusqu'en 88, où est conclu le dixième. Alors, il traite en parallèle et en tranche chronologique les œuvres des différents pays. Donc ça, c'est une idée aussi tout à fait intéressante. Philibien, on peut dire qu'il pratique l'histoire sous deux formes, à la fois comme récit du développement de la peinture, une histoire, véritablement, et en même temps comme réunion d'anecdotes relevant plutôt de la biographie du peintre et de ses clients. Mais la forme que privilégie Philibien est très nettement la première, c'est-à-dire le récit du développement de la peinture, et beaucoup moins les anecdotes. Je vous ai fait voir jusqu'ici le commencement et le progrès de la peinture. Je vous ai nommé les peintres anciens qui ont eu le plus de réputation. Je vous ai dit de quelle force cet art, après avoir été presque éteint, parut de nouveau dans le XIIIe siècle, et qui furent ceux qui contribuèrent les premiers à la rétablir. Que Michel-Ange, Raphaël et quelques autres de leur temps le portèrent au plus haut degré où nous l'ayons vu. Vous savez ceux qui se sont signalés dans leurs écoles et en plusieurs lieux d'Italie. Comment la peinture se perfectionna dans les autres pays, et aussi de quelle sorte elle vint à déchoir quand certains peintres, qui parurent au commencement de ce siècle, s'étant laissés aller à des goûts particuliers, au lieu de marcher toujours sur les pas des plus grands maîtres, ne suivirent que leur propre génie. Car il est vrai que dans Rome même, on ne pratiquait presque plus les enseignements ni de Raphaël ni des Carache lorsque le Poussin commença, si j'ose dire, à nous ouvrir les yeux et à nous donner des connaissances encore plus grandes de la peinture que celles que nous avions eues. Puis, qu'ayant remonté jusqu'à la source de cet art, il nous a appris les maximes des plus savants peintres de l'Antiquité et a mis en pratique ce que nous ne savions de l'excellence de leurs ouvrages que par le rapport des historiens. Ça, c'est un éloge remarquable de Poussin, qui aurait réussi non seulement à s'approprier l'enseignement des anciens, par la lecture des anciens, Pline évidemment en premier, mais aussi Cicéron, Quintilien, et il aurait su faire passer directement dans son art les effets de cet enseignement. C'est donc Poussin qui nous a ouvert les yeux, c'est très intéressant, ouvert les yeux, et grâce à lui, nous pouvons retourner au classicisme, voir véritablement avec des yeux classiques, mais dans l'époque dans laquelle nous vivons, dans laquelle vivait André Philibien. Pour Philibien, c'est aussi un point qu'il faut absolument souligner, il n'y a pas de progrès linéaire de l'art. Il y a des moments favorisés par des circonstances particulières qui font naître de grandes œuvres et de grands artistes, mais il n'y a pas de progrès linéaire. Et voici ce qu'il dit dans son premier entretien à propos du peintre Appel. « Je vous dirai donc que les ouvrages d'appel... Non, pardon, je n'ai pas noté, c'est une citation courte. Je vous dirai donc que les ouvrages d'appel n'étaient pas simplement accomplis dans ces belles parties de l'ordre, du dessin et du coloris. Car outre qu'il était abondant en invention, savant dans la proportion et dans les contours, charmant et précieux dans le coloris, il avait encore cela par-dessus les autres peintres, qu'il donnait une beauté extraordinaire à ses figures. Et par un bonheur tout particulier, il fut le premier et presque le seul qui reçut du ciel cette science toute divine qui sait comme inspirer la grâce et donner ce je ne sais quoi de libre, de vif, de rare, ou pour mieux dire de céleste, qui ne se peut enseigner et que les paroles mêmes ne sont pas capables d'exprimer. Donc en effet, il ne peut pas y avoir de progression linéaire dans la mesure où il y a des peintres élus par le ciel, qui bénéficient de cette grâce qui est un don du ciel qu'on ne peut enseigner. Cette notion est extrêmement intéressante et montre à quel point, là encore, nous sommes dans une théorie de l'art qui accorde énormément au génie, mais que le génie est inspiré. Le génie ne peut pas s'enseigner, le chef-d'œuvre ne peut pas se commander. Tout cela n'est possible que parce qu'il y a certains êtres privilégiés. La peinture, dit-il encore, comme les autres sciences et les autres arts, n'est pas toujours restée dans un même état. Elle a eu son commencement, son progrès, et après être arrivée au plus haut point où on l'ait vue, elle est comme tombée. Et ceux-mêmes qui avaient pour exemple les plus excellents peintres ne les ont pas suivis dans le chemin qu'il leur avait tracé. Là encore, bien sûr, il y a des exemples des excellents peintres, mais ces exemples peuvent ne pas être suivis. Et dans les cas de mauvais artistes ou dans les cas d'artistes géniaux, c'est de toute façon des caractères d'une autre sorte qui interviennent dans la formation de ces talents ou de ces absences de talents. Le sommet pour Félibien est atteint par Raphaël, deuxième entretien, qui, comme Appel, possédait aussi la grâce, le don du ciel, qui ne peut s'expliquer à partir d'une simple évolution ou d'un progrès des arts. André Félibien, j'insiste sur ce point, est un véritable écrivain. Il a lui aussi laissé des descriptions d'une qualité extraordinaire en 1659, après son retour de Rome. Il connaissait lui aussi sans doute ces descriptions qui circulaient à Rome, comme celle de Carlo, de la coupole de Lanfranco dont je vous ai parlé. Et il a laissé aussi, Félibien, une description des peintures du château de Vaux, qui sont un modèle absolu de ce genre de description des figures et en même temps interprétation, on dirait iconographie et en même temps iconologie, car en effet il s'intéresse à la signification, à l'interprétation des œuvres. Il distingue bien ce qui est de l'ordre de l'exécution, les qualités de la perspective, de la lumière, du coloris, de l'expression, mais toujours, le but de Félibien est de faire l'éloge, non du peintre, mais de celui auquel sont destinées ces peintures, c'est-à-dire Fouquet en l'occurrence. Dans un autre recueil de descriptions, lorsqu'il dépeint les reines de Perse au pied d'Alexandre, le tableau célèbre de Lebrun qui est à Versailles, là encore, c'est un éloge du monarque et en même temps qu'une description systématique du tableau. Voilà un petit peu ce que je voulais encore dire de Félibien, que je traite, je m'en excuse beaucoup, un peu vite, mais il me fallait terminer aujourd'hui la question de cette suite de Vasari qui nous a conduit jusqu'à la fin du XVIIe siècle, à la fois par ses adversaires, comme Mancini, comme Bellori, et par quelqu'un qui s'est emparé du modèle de Vasari, mais en le transformant complètement et en se posant vraiment comme le premier historien de l'art français, donc André Félibien. Voilà, nous faisons 5 minutes de pause.